résurrection. Et tout de suite, vous le pensez bien, nous allons lire le chapitre 15 de 1 Corinthiens. Alors, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, dont l'objet est précisément la résurrection. J'avais prévu tout d'abord, parce que le chapitre est long, de lire les 23 premiers versets. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Jésus est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Nous arrêtons là notre lecture. Nous en avons déjà bien assez pour nourrir notre méditation sur cette grande promesse de la résurrection. Disons tout de suite que la résurrection des fidèles de l'Église est indispensable. Indispensable. Il n'y aurait pas de salut, pas de vie éternelle sans la résurrection. n'y en aurait pas. Il n'y aurait pas de salut, c'est bien le sens général de du passage que nous venons de lire. Vous savez, on était habitué un peu dans les religions, la religion catholique par exemple, à entendre beaucoup parler du salut de l'âme. Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi quand, avant vraiment d'entrer dans la connaissance de la parole de Dieu, avec ce que je pouvais savoir en tant que membre de l'Église catholique, eh bien, je me disais, le salut de l'âme, c'est le salut, par conséquent, d'une partie matérielle de nous-mêmes. C'est fini, le corps, il n'en est plus question. Et je pense que beaucoup de catholiques avaient cette vision-là, enfin, le salut de l'âme. On parlait toujours du salut de l'âme, et jamais de la résurrection des corps. Donc, l'idée qu'on s'était faite du salut, qui, en somme, n'intéressait que l'âme immatérielle, était absolument fausse. Je sais bien que la résurrection était écrite dans la liturgie catholique, elle figurait dans la liturgie catholique, mais la liturgie catholique, on l'entendait chanter ou énoncer, et puis on n'y faisait pas attention. Bien sûr, tout ce qui était chanté, tout ça, bon, on le chantait sans faire attention du tout aux paroles. Donc, par conséquent, plusieurs catholiques on avait cette optique que la résurrection, c'était le salut, c'était celui de l'âme, d'une partie immatérielle de nous-mêmes. On était donc appelés à vivre en tant qu'esprit. Et ce n'est pas ça. Nous allons voir dans l'étude de la résurrection qu'il s'agit bien de la résurrection des corps. Et que des corps seront donnés à ceux qui seront dignes d'hériter la résurrection, d'avoir part à la résurrection, comme a dit Jésus, ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part à la résurrection recevront donc des corps, vivront dans des corps différents de ceux de maintenant, mais dans des corps tout de même. La résurrection de Jésus, il faut le rappeler aussi, est elle-même fermement établie. Elle est établie par les évangiles, elle est établie aussi par les épîtres de Paul et de Pierre, et par les actes et l'Apocalypse. Alors, si vous voulez très rapidement, prenons-en quelques exemples. Dans les évangiles, ce n'est pas beaucoup la peine, mais dans 1 Corinthiens 6,14, pour voir comment vraiment elle figure dans les épîtres, 1 Corinthiens 6,14, « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Voilà une mention qui figure dans le déroulement de l'épître aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 4,14 aussi, par exemple, 2 Corinthiens 4,14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Vous voyez, quand il est question de la résurrection de Jésus, il est aussi question de c'est quelque chose qui est comme corollaire, il est aussi question de la résurrection des croyants. Et puis enfin, 5,15 aussi, là, c'est simplement pour donner quelques exemples, et qu'il est mort pour tous, afin que tous qui vivent ne vivent pas plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. mort et ressuscité pour eux. Enfin, je ne vais pas tout consulter, mais je vais vous dire simplement quels sont les passages que j'ai notés. Romains 1, 4, par exemple, Romains 1, 4, Romains 4, 24, Romains 6, 4 et 9, Galates 1, 1, premier verset du chapitre 1, Éphésiens 1, 20, 1 Pierre 1, 21, Actes 2, 31, 32, Actes 3, 15, Actes 4, 10, etc. pour les Épîtres. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, versets 17 et 18, chapitre 20, versets 5 et 6, et il y a encore d'autres passages. Vous voyez que je voulais vous montrer surtout qu'il y a beaucoup de mentions dans les Écritures concernant la résurrection du Seigneur. C'est donc un fait majeur, très important, qu'il ne faut pas laisser de côté. Bien entendu, il faut que la résurrection de Jésus, qui amènera à la résurrection des croyants, soit une partie très ferme, très solide de notre doctrine, de cette doctrine à laquelle nous attachons la foi. Et puis, à ce que je viens de dire, s'ajoute le témoignage des apparitions telles que nous venons de le lire dans 1 Corinthiens 15. L'apôtre Paul nous a parlé des apparitions. Ces apparitions constituent des témoignages. Si j'ai bonne mémoire, je ne l'ai pas noté ici, mais il devrait y avoir dans les 18 apparitions du Seigneur Jésus. Alors, le passage que nous avons lu est d'abord une réponse à des gens qui étaient, dit l'apôtre, parmi nous. Comment quelques-uns, parmi vous, disent-ils. Je pense qu'il n'y a pas ici, à Père Guillot, ni même dans les assemblées de Dieu, de gens qui doutent de la résurrection. Je pense que ça n'est pas possible quand même qu'il y ait, mais vous voyez que dans l'Église primitive, cela était, c'était occasionné par la transmission de certaines positions de groupements israélites, mais cela n'existe plus maintenant. Cependant, ce que nous dit Paul est excessivement intéressant, ça nous intéresse, hein, parce que ça nous montre qu'il y a un lien entre la résurrection des morts, des croyants morts, et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, je relis les versets 12 et 13. Si l'on prêche que Jésus, que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est point ressuscité. Alors, si vous prenez la question dans ce sens-là, vous dites que ce n'est pas possible, les chrétiens ne ressusciteront jamais, ils meurent, ils ne pourront pas ressusciter. Alors, vous amenez cette négation terrible que Christ non plus n'est pas ressuscité. Si l'on ne croit pas à la résurrection des morts, on ne peut pas croire non plus à la résurrection de Jésus. La vie nouvelle des croyants vient de leur participation à la vie de Christ. Cela, nous l'avons suffisamment étudié hier encore avec les trois phases liées entre elles, le statut nouveau, la vie nouvelle et la création nouvelle. trois choses qui sont liées ensemble. Donc, je répète simplement que la vie nouvelle des croyants, les croyants qui sont en vie nouvelle, en nouveauté de vie, cette vie nouvelle vient de leur participation à la vie de Christ. Ils sont, dit l'Écriture, en Christ. Ils sont unis, liés à Christ. Et nous avons bien dit, nous pensons qu'il faut hautement le réaffirmer, si quelqu'un n'est pas en Christ, il n'est pas dans l'expérience chrétienne. S'il n'est pas en Christ, la foi nous unit, la foi authentique, la foi qui sauve, nous unit au Christ. Et au Christ ressuscité. Au Christ ressuscité, en effet. Si nous revenons à l'Épître aux Romains, nous lirons ceci dans le chapitre 5 et le verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mais il était mort. Et par sa vie. Nous serons sauvés par sa vie. La crucifixion, c'est pour nous la source merveilleuse, magnifique, du pardon, de la grâce fondamentale qui est celle du pardon des péchés. L'expiation ayant été faite, réalisée, ça c'est la croix, notre condamnation a été clouée à la croix, donc par conséquent, la croix nous a libérés de toute captivité et de toute responsabilité devant le Seigneur, mais nous sommes ici sauvés par sa vie. Or, je vous rappelle ce que Jésus dit à Jean, c'est dans le premier chapitre de l'Apocalypse, « Voici, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Et nous sommes sauvés par un Christ qui est vivant, au siècle des siècles, c'est-à-dire qu'il est ressuscité. Vous voyez, Jésus a mis les choses dans la netteté la plus complète. J'étais mort dans son humanité, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Donc, nous avons ce passage, nous avons aussi dans les Romains le chapitre 6 et le verset 4 et 5, chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, si nous marchons en nouveauté de vie, c'est parce que Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. C'est nous sommes un peu plus au verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alors, nous avons encore, puisque nous sommes dans Romains, chapitre 8 et verset 11, et si l'Esprit de Christ qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Nous avons donc un Esprit, cet Esprit qui habite en nous est appelé l'Esprit de vie en Jésus-Christ. C'est dans le verset 2 de ce chapitre 8. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le mot loi a ici, dans ce verset 2, le sens de puissance. le sens de puissance. La loi, parce qu'elle est puissante, elle s'impose par une puissance. Alors, on peut lire ce verset avec le terme puissant. En effet, la puissance de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la puissance du péché et de la mort. Cette puissance supérieure a chassé la mauvaise puissance, celle du péché et de la mort. Ainsi donc, nous avons bien raison de dire que la vie nouvelle du croyant vient de leur participation à la vie de Christ, c'est-à-dire de Christ ressuscité. Vous me direz, mais je le savais, bien sûr, tant mieux que vous le sachiez déjà, mais nous sommes, quand on médite l'Écriture, on fait en somme des révisions, et ces révisions, ne croyez pas qu'elles sont superflues. Il faut faire attention, c'est un piège de l'ennemi quelquefois de nous faire dire ou de nous faire penser « Oh ben ça je le sais, ça je l'ai déjà vu, ça je l'ai vu tant de fois, je le sais, je le sais. » Mauvais ça, c'est un piège. Reprenons toujours, la parole est une nourriture. Et à force de dire « je le sais », on finit par non seulement l'oublier, mais on finit par perdre dans son cœur l'empreinte d'une vérité, la présence d'une vérité. Il faut prendre garde à ça. Alors, nous passons maintenant, toujours dans 1 Corinthiens 15, nous passons au verset 14 à 19. Il faut le relire, n'est-ce pas ? Nous l'avons lu tout à l'heure, mais on va le relire quand même. « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné. » Le texte aurait pu dire « puisque nous aurions » Nous aurions témoigné dans cette hypothèse. Nous aurions témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et tout s'enchaîne dans le dessein de Dieu. Tout s'enchaîne. On ne peut pas laisser de côté quelque chose, une partie, un chaînon du plan de Dieu, parce que tout s'enchaîne, et c'est normal, les œuvres de Dieu sont parfaites, elles sont magnifiques, et naturellement, l'enchaînement des différentes phases ou parties du dessein de Dieu sont liées l'une à l'autre, elles s'enchaînent selon une logique, la logique de Dieu. Tout s'enchaîne, et toute la vérité du salut s'écroule. Toute la vérité, votre foi, le pardon de vos péchés, tout s'écroule si l'on nie la résurrection des morts. Si on nie la résurrection des morts, on met tout par terre. Vous savez, ça n'est pas seulement cela, je dis ça en matière de digression. Mais si nous laissons certaines parties du dessein de Dieu et par conséquent de la révélation qui nous en est donnée, si nous laissons certaines parties de côté, nous risquons de mettre tout le plan de Dieu pour nous par terre, de l'annuler. C'est le cas, par exemple, de ceux qui, je pense qu'on n'en rencontre plus beaucoup maintenant, mais il fut un temps, on a beaucoup rencontré, ceux qu'on appelait les Jésus seuls, ceux qui niaient ce qu'on appelle la Trinité, hein, les antitrinitaires, et qui ne voulaient absolument pas que Dieu nous soit révélé en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Eh bien, j'avais bien étudié cette question. Si je ne reçois pas cette révélation que Dieu est Père, bon, et je sais ce, il m'est dit ce que Dieu, le Père fait, puis que Dieu est Fils aussi, et il m'est dit ce que le Fils fait lui-même, et puis Dieu est Saint-Esprit aussi, n'est-ce pas, le Saint-Esprit qui, en définitive, a un rôle de communication, de un rôle qui consiste à donner, à annoncer ce qui l'œuvre de Christ, n'est-ce pas? Si je ne crois pas les choses de cette manière, et si je dis non, il n'y a ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit, il y a un seul Dieu, un Dieu unique, c'est vrai qu'il y a un Dieu unique, mais si je ne veux pas qu'il me soit révélé en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, je mets tout le dessein de Dieu par terre. Les antitrinitaires s'écartent, s'éliminent eux-mêmes de la voie du salut. Vous voyez, donc, Paul a bien raison de nous dire ces choses. Si, vraiment, n'est-ce pas, on nie la résurrection des morts, eh bien, toute la vérité s'écroule, le dessein de Dieu s'écroule. Nous voyons, par conséquent, quelle importance capitale prend la résurrection de Jésus, suivie de celle des croyants. La résurrection de Jésus qui appelle, quand l'heure sera venue, celle des croyants. Pas de salut, pas de pardon des péchés, si l'on supprime la résurrection. Voilà ce que Paul nous dit. Les hommes sauvés vivront éternellement dans un corps et non pas comme des purs esprits. Souvent on emploie cette expression, les purs esprits, en voulant dire des esprits absolument immatériels. La résurrection de Christ constitue donc l'événement indispensable au salut éternel. Dans les versets 20 à 23, je vous rappelle ces versets, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémice, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alors, dans ces versets, nous avons là, alors, bien sûr, un appui apporté, une certitude apportée de la résurrection de Christ. Naturellement, l'apôtre dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité ». Alors, assez de ces erreurs, assez de ces aberrations, Christ est ressuscité réellement. Voilà. Alors, nous partons de cette foi. En ressuscitant, il occupe la place des prémices, c'est-à-dire, vous savez ce que ce terme signifie, on peut, si vous voulez, préciser le sens de la manière suivante, prémisse est, par exemple, dans un champ de blé, un épi mûr et qui est cueilli à la main à titre d'examen, il y a un épi mûr qui annonce la moisson. Du moment qu'il y a là, il se trouve un ou quelques épis mûrs avant les autres. Les autres ne sont pas encore tout à fait mûrs, ils vont le devenir, mais là on en trouve une partie qui a peut-être été dans une terre un peu meilleure ou qui a été bien ensoleillée. Et alors, on se dit, tiens, voilà, l'épi mûr, la moisson ne va pas tarder. Donc, l'épi mûr qui est cueilli à la main annonce la moisson. Jésus-Christ, donc, est ainsi désigné, il prend la place des prémices. Il rend nécessaire et certaine la résurrection des morts. Non seulement il la rend certaine, mais il la rend nécessaire, il la rend indispensable, il lui ouvre la porte. Il lui ouvre le chemin ou la porte. Il lui ouvre la porte. Rappelons-nous que le premier Adam, lui, il a fait tomber l'humanité dans la mort. Beau travail. Il a fait tomber l'humanité dans la mort. Mettons que l'humanité occupait une position élevée près de Dieu, n'est-ce pas ? Magnifique, une très belle position. Et lui, il fait tomber. Il a fait tomber sur cette terre, dans le... c'est une chute, vraiment, comme on le dit, c'est bien une chute. Et puis, le second Adam, lui, il vient directement là, sur un ras de terre, là où l'humanité est tombée, l'humanité de la chute est tombée, il vient là et il relève. Il relève, il remonte l'humanité. Le premier, donc, fait tomber l'humanité dans la mort. Le second Adam, qui lui aussi est de la famille humaine, la ramène à la vie. La ramène à la vie. Je dis bien ramène l'humanité, puisque le sacrifice de Christ, l'œuvre de Christ, l'œuvre de rédemption, intéresse le monde entier. Nous avons déjà signalé ce commandement de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le commandement de Dieu, c'est la vie éternelle, a dit Jésus. Seulement, évidemment, liberté étant donnée à l'homme, beaucoup d'hommes seront de ces appelés qui ne sont pas élus. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors, à l'avènement... Chacun en son rang, nous dit l'apôtre, bien sûr, Christ d'abord comme prémisse, et puis ensuite les croyants à un certain moment que Jésus a désigné comme le dernier jour. Celui qui voit le Fils et qui croit en lui a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Chacun en son rang. À l'avènement... Donc, à l'avènement du Christ, oui, parce qu'il est appelé avènement, c'est le terme employé dans les Écritures, ressusciteront ceux qui appartiennent à Christ par une foi réelle et une foi persévérante. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est Jésus qui le dit, ça. Ceux qui appartiennent à Christ par une foi persévérante. Comme les vrais fidèles, l'attente, comme ce doit être le cas de tout vrai fidèle, l'attente invite à la lutte et à l'achèvement de la sanctification tant que nous sommes sur la terre. Alors, le dernier jour dont a parlé le Seigneur, dans Jean 6, plusieurs fois, le Seigneur dit, parle du dernier jour, résurrection au dernier jour. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, quel est ce dernier jour? Eh bien, ce dernier jour, c'est celui de l'enlèvement de l'Église. Et celui de l'enlèvement de l'Église. Alors, nous pouvons... ici, tout de suite, nous poser la question, qu'est-il dit dans l'ensemble sur cette résurrection du dernier jour? Eh bien, nous allons le voir, ce n'est pas la peine d'attendre plus. Nous allons dire que il s'agit de la première résurrection. Il y a deux résurrections. Il y en a deux. Et il s'agit ici de la première résurrection. La première résurrection comprend comprend combien de phases? Avez-vous une idée de ça? La première résurrection. Je dis la première, vous verrez que ce terme est dans l'Apocalypse au chapitre 20. Nous allons le lire dans un instant. Combien cette première résurrection a-t-elle de parties ou de phases? Elle en a cinq. Elle en a cinq. Cinq. Et nous allons voir ces cinq. D'abord, il y en a une qu'on a, nous venons d'étudier, celle qu'on pourrait appeler la phase de l'ouverture. C'est la résurrection de Jésus. Hein? Résurrection de Jésus. Jésus est appelé comme prémisse ici, mais on comprend pourquoi prémisse par rapport à la résurrection de la masse des croyants. Mais en réalité, n'est-ce pas, nous voyons que Jésus ouvre la route. C'est lui qui fraye la route, comme nous avons lu dans Ésaïe 35, une route frayée, une route magnifique sur laquelle, sur laquelle progressent les rachetés de l'Éternel. Donc c'est lui l'ouverture, première phase de la première résurrection. Et puis il y a une seconde phase, je ne sais pas si vous y pensez, si vous la voyez, une deuxième phase qui est celle de la résurrection de Moïse. Nous avons beau chercher, nous sommes amenés à considérer que Moïse a été inhumé, nous le savons, par le Seigneur, n'est-ce pas? Mais à un certain moment, je ne sais pas combien de temps après, il a été ressuscité. C'est Jude qui nous le dit, l'épître de Jude. Jude au verset 9. Épître de Jude, verset 9. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Donc, à un certain moment, l'archange Michel a été envoyé pour reprendre le corps de Moïse, parce que si le corps de la résurrection est différent du corps actuel, cependant, il faut que le corps actuel, lui, disparaisse. Nous verrons dans le chapitre 15 même de 1 Corinthiens qu'il y a quand même un rapport entre le corps actuel, même s'il y a différence, il y a rapport entre le corps actuel et le corps de la résurrection. Ainsi donc, l'archange Michel a été envoyé non pas le jour de l'inhumation de Moïse, parce que Dieu était là. C'était Dieu qui inhumait Moïse. Allez, le diable ne s'est pas présenté à ce moment-là. Ah, vous pouvez être tranquille, n'est-ce pas? Il n'était pas là. Et c'est donc, après, l'archange Michel contestait avec le diable. Le diable voulait retenir. Il avait des raisons patentes. Et ces raisons, il les prend dans la connaissance de Dieu et des lois de Dieu. Il l'apprend là, n'est-ce pas? C'est pas au hasard que le diable agit. Nous le voyons dans la tentation de Jésus, il s'empare de la parole, il s'empare de l'écriture. Alors là, n'est-ce pas, il ne voulait pas parce que l'ouverture n'était pas faite, Christ n'était pas incarné, Christ n'avait pas souffert la mort de la croix, et Christ n'était pas par conséquent ressuscité. La porte n'était pas ouverte. Alors le diable dit non, 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 non. Attention, nous avons un serviteur, un auxiliaire, un grand auxiliaire de Dieu. Très bien, mais il est mort. Il est mort, moi je le veux qu'il reste là, mort, dans les morts, parmi les morts, pas qu'il soit vivant. Et l'archange Michel, lui, il avait des ordres. Il pouvait devancer l'œuvre de Christ concernant Moïse. Si bien que Moïse a donc été ressuscité, et c'est ce qui fait que dans l'Évangile, mettons, si vous voulez, Luc chapitre 9, chapitre 9 et verset 33, nous pouvons lire ceci. Chapitre 9 et verset 33. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, ces hommes, c'était Élie et Moïse, nous étions sur la montagne de la Transfiguration. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, maître, il est bon que nous soyons ici. » Se trouvait bien Pierre, là. « Il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et voyez, il va même jusqu'à s'oublier lui-même, cet apôtre Pierre. Alors, il veut dresser donc des tentes, mais les apparitions de Moïse et d'Élie ne sont pas des visions. Comprenez que au Seigneur Jésus, Dieu son Père ne va pas donner des visions. Il lui donne des réalités. Et par conséquent, Moïse, c'est bien le sentiment que Pierre a. Pierre reconnaît Moïse et Élie, il les désigne, il les reconnaît par le Saint-Esprit. Mais il voit bien des êtres vivants, il voit des hommes, hein, et il veut les loger dans des tentes. Alors, là, n'est-ce pas, nous voyons bien que Moïse est présent, ainsi qu'Élie. Pour Élie, c'est une autre affaire, nous n'avons pas à étudier cela pour l'instant, mais Moïse, donc, nous voyons qu'il a été ressuscité. Et il a, dans la première résurrection, il est donc un signe. Il est un signe. L'ouverture, c'est Jésus, mais lui est un signe, parce qu'au moment où il était ressuscité, Jésus ne l'était pas. Et c'est le seul cas de résurrection pour l'éternité. Il y a eu dans l'Ancien Testament, il y a eu des résurrections, nous le savons, mais il y en a eu aussi trois pendant le ministère de Jésus, mais ces trois-là sont ressuscités pour mourir à nouveau, comme Lazare, par exemple, pour mourir à nouveau. Donc, ce n'était pas la grande résurrection, la résurrection pour la vie éternelle. Mais Moïse, lui, c'est différent. Hein, phase de la première résurrection. La troisième phase, eh bien, nous la trouvons dans Matthieu 27. Matthieu 27 au verset 52. Je lis au verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Voilà des gens qui ressuscitent de la résurrection éternelle. Beaucoup de commentateurs sont absolument d'accord sur ce point. Il y en a un même qui met en valeur ceci, c'est que ces saints qui sont ressuscités entrèrent dans la ville sainte. Ils vinrent dans la ville sainte, ceux qui, à son gré, au gré de ce commentateur, je ne sais plus lequel, signifie qu'ils étaient destinés à la cité de Dieu. Ils viennent se présenter dans la ville sainte de la terre, mais montrant ainsi qu'ils étaient destinés à la cité de Dieu. Alors ça, c'est une troisième phase que nous pouvons appeler celle des prémices. Des prémices, en tenant compte de ce schéma que nous livre l'Ancien Testament, il y a les semailles, il y a les prémices, c'est toute première récolte, les fruits récoltés en premier, et puis il y a la moisson,
Et puis après la moisson, il y a encore quelque chose, il y a les glanures. Alors, nous allons voir toutes ces phases. Nous avons vu la phase de l'ouverture par Jésus-Christ. Nous voyons le signe qui précédait encore l'ouverture. J'aurais dû peut-être le mettre avant l'ouverture. Le signe, c'est Moïse ressuscitant. Les prémices, ce sont ces saints. Vous savez, les saints qui ressuscitent, là, ce n'était pas des saints qui étaient morts, mais des saints du temps de Jésus. C'était des saints des siècles passés. Je ne sais pas. Il pouvait y avoir, je ne sais pas moi, Abraham, il pouvait y avoir Samuel, il pouvait y avoir Daniel et Job dont parle Ézéchiel. Il pouvait y avoir des saints comme ceux-là, n'est-ce pas? Vous voyez, morts depuis très longtemps. Bon, alors ça, ce sont les prémices. Ensuite arrive la moisson. Et c'est le moment de cette moisson que Jésus appelle le dernier jour. C'est cela. Alors ça, nous le voyons dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et versets 13 à 18. Chapitre 4, verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Ben, c'est ça que vous aviez oublié l'autre jour. Vous vous rappelez dans notre petit entretien, n'est-ce pas? Hein? Ben, vous me posiez une question, vous aviez tout simplement oublié ce verset-là. Hein? Que Jésus, nous croyons que Dieu, c'est-à-dire par un décret de Dieu, Dieu ramènera par Jésus, quand Jésus descendra, il ramènera avec lui ceux qui sont morts et qui sont à l'état, Hébreux 12, 22 ou 24, ils sont à l'état d'esprit des justes. Alors donc, Jésus va ramener les esprits des justes au niveau de la terre, et puis c'est là, lui, Jésus, reste dans les airs, mais il va ramener ses esprits pour que la résurrection s'opère sur la terre, au niveau de la terre. Il faut que toute résurrection s'opère là. Bien, alors je continue la lecture, verset 15. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Tous ensemble, c'est-à-dire les morts ressuscités et les croyants. Vous voyez, les morts ressuscités pourront se joindre aux croyants qui sont eux-mêmes transmués. Ils pourront se joindre puisqu'ils seront tous au niveau de la terre. Alors, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oh, le Seigneur ne sera pas tellement haut, vous savez, il sera là. Il ne pose pas ses pieds à ce moment-là. Il posera ses pieds plus tard, nous dit Zacharie, sur le mont des Oliviers, au moment de la parousie. Alors, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, ça, c'est la grande moisson, c'est ce que Jésus appelle le dernier jour. La résurrection, je le ressusciterai au dernier jour. C'est ça, c'est Jésus, en effet, qui sera là, et qui va ressusciter, puisqu'il ramène les esprits des justes, parvenus à la perfection, il les ramène de la cité de Dieu où ils sont, il les ramène sur la terre, et il ressuscite, et avec l'autre partie, l'autre phalange, les vivants en Christ, les morts en Christ, les vivants en Christ, qui sont transformés, tous ensemble sont élevés dans les airs vers le Seigneur. Voilà ce qui nous est révélé. Et alors là, il nous manque, j'avais annoncé 5 phases, 5 parties, nous en manque une, c'est celle des glanures. Alors les glanures, nous les trouvons dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, au chapitre 20 de l'Apocalypse et au verset 4. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Vous savez, je vous ai déjà dit dans nos petits entretiens en effet, n'est-ce pas, ceux qui, malheureusement, peut-être, ne seront pas enlevés, puisque l'un sera pris, l'autre laissé, ça, c'est le Seigneur seul qui est juge, pour ne pas spéculer à l'avance sur cette différenciation entre celui qui est enlevé, c'est pas notre droit, nous n'avons pas, c'est quelque chose que Dieu se réserve. L'un sera pris, l'autre laissé. Alors, ceux qui seront laissés, et nous avons dit que ce n'est pas nécessairement des inconvertis comme un grossier commentaire le prétendrait, n'est-ce pas? Non, ce ne sont pas... Ce sont malheureusement des gens qui ne vivent pas en Christ. Les morts en Christ ressuscitent, les vivants en Christ s'en vont. Bon, alors, donc ceux-là vont se trouver engagés dans le temps de l'Antichrist. Et dans ce temps-là, il faudra ou bien qu'ils se soumettent, ils en seront sommés, ils seront sommés de se soumettre à l'Antichrist, de porter la marque de la bête de l'Antichrist sur le front et sur la main droite, ce qui veut dire qu'il faudra penser comme l'Antichrist, il faudra agir comme le veut l'Antichrist, la main droite c'est l'action, le front c'est la pensée, eh bien il faudra qu'ils pensent et qu'ils agissent comme le veut l'Antichrist. S'il refuse de porter cette marque, il se peut que cette marque soit matérialisée. S'il refuse de porter cette marque, eh bien, ils seront décapités. Le mot décapité n'est peut-être pas à prendre absolument à la lettre. Ils seront mis à mort. D'une manière ou de l'autre, ils seront mis à mort. Bon. Et c'est ainsi qu'ils vont retrouver ceux de la moisson. Ils vont les retrouver, parce que là, ils auront rendu vraiment un grand témoignage. En quelque sorte, n'est-ce pas, ils se seront repêchés, si je puis dire, n'est-ce pas. Ils étaient peut-être déjà chrétiens, mais ils n'étaient pas allés jusqu'où il fallait, il aurait fallu qu'ils aillent. Alors, ils sont restés, et là, ou bien ils cèdent à l'Antichrist, et alors ils vont dans les temps de feu, ou bien alors ils ne cèdent pas et ils perdent la vie. Ils sont tués. Mais ils ressuscitent, parce que ça, s'ils acceptent la mort, ce sera évidemment un témoignage de foi important et valable, n'est-ce pas, devant Dieu. Alors, donc eux, c'est les récupérés, en somme, c'est les glanures, les tiges de blé que l'on ramasse après la moisson, hein, ce sont ceux qui sont récupérés. Ainsi donc, la première résurrection comprend le signe, je devrais le mettre en premier, le signe, Moïse, l'ouverture, Jésus, les prémices, ceux de Matthieu 27, les corps des saints qui ressuscitent, la grande moisson, le dernier jour, là, l'enlèvement, au moment de l'enlèvement de l'Église, et puis les glanures, Apocalypse 20. Mais lisons encore dans Apocalypse 20, euh, Ils revinrent à la vie, à la fin du verset 4. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est-à-dire qu'ils rejoignent les autres. Ils rejoignent ceux de la moisson. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts. Ah, les autres morts. Les autres morts, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie de cette première résurrection, soit en tant que glanure, soit en tant que moisson, soit en tant que prémisse, ceux qui ne font pas partie de cette première résurrection, c'est ceux qui sont appelés ici les autres morts. Alors, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Alors, c'est cette phrase-là qu'il faut bien comprendre. Elle est dans le sens un peu, pour ainsi dire, les hommes sont ma boule, vous savez. Bon. Il s'imagine que c'est la crise du Golfe, ici. On n'est pas en Arabie Saoudite, quand même. Bon, alors, c'est la première résurrection. C'est dans le sens du latin d'église, quand le prêtre, à la fin de la messe, dit « Ite missa est ». Ça veut dire « Ite, allez-vous-en ». Missa est, la messe est, c'est-à-dire la messe est finie, la messe est. C'est une forme latine et qui était aussi une forme grecque. Donc, c'est la première résurrection, ça veut dire la première résurrection, c'est terminé, c'est la fin, elle est finie, hein, plus. Après, c'est les autres morts, c'est la deuxième résurrection, c'est une toute autre affaire. Voilà. Bien, cette deuxième résurrection ne nous intéresse pas actuellement ce matin. Alors, nous revenons un peu à notre lecture de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. À l'avènement du Christ, donc à l'avènement, c'est-à-dire au moment, comme nous l'avons lu dans 1 Thessaloniciens, où le Seigneur ramène les esprits des justes parvenus à la perfection, pour qu'ils soient ressuscités au niveau de terre, il vient chercher son peuple, son Église, parce que son Église ne peut pas participer au temps de détresse qui va venir, n'est-ce pas? Il y a un temps de détresse de 42 mois, un temps de détresse dont le Seigneur Jésus a parlé lui-même dans Matthieu 25, un temps de détresse terrible. L'Église ne peut pas traverser ce temps. Ce n'est pas pour elle. Tout jugement doit lui être épargné, même ce jugement-là, bien sûr. Elle ne vient pas en jugement. Elle n'est pas venue en jugement. Le jugement des membres de l'Église, c'est la croix du calvaire. Et par conséquent, l'Église ne peut pas passer dans le temps des fléaux, des derniers malheurs, les fléaux, c'est-à-dire les coupes dans l'Apocalypse. Alors, à l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire au moment où il vient chercher son Église, son peuple, tous les morts ressuscitent, et comme nous venons de le voir, c'est la première résurrection. Ceux qui appartiennent à Christ par une foi persévérante sont enlevés. Il faut qu'ils soient en Christ. Je vais lire dans Philippiens au chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 10. Chapitre 3, verset 10. Il faut que je commence un peu plus haut, parce que les phrases de Paul sont très longues, nous l'avons déjà constaté. Et on va commencer au verset 8. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alors voilà ce qui nous intéresse particulièrement maintenant, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce « si je puis » a toujours beaucoup étonné les lecteurs et les commentateurs. Bon, mais donc ici, l'apôtre Paul nous montre que pour vraiment parvenir à la résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire la résurrection de la moisson dont nous venons de parler, eh bien, il faut vraiment être revêtu de la justice qui s'obtient par la foi en Christ et qui vient de Dieu, par la foi. Il faut connaître Christ, c'est-à-dire, nous avons élucidé cette question de terme, du sens du mot connaître. Il faut être dans une relation personnelle et vivante avec Christ. Et pour connaître la puissance de sa résurrection, il faut connaître aussi la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. En somme, là, nous trouvons vraiment les conditions de l'enlèvement, les amis. Nous trouvons là les conditions de l'enlèvement. C'est pas quelque chose de léger, ça. Vous savez, combien je voudrais que dans les églises, on insiste sur ça. L'enlèvement, ça ne va pas de soi. L'un sera pris, l'autre laissé. Le Seigneur, sans ça, le Seigneur a dit, moi je prendrai tous ceux qui sont passés par le baptême. Allez, je prends tout le monde. C'est pas ça. L'un sera pris, l'autre laissé. Alors, voilà les conditions auxquelles l'on participera à l'enlèvement. Chers amis, que chacun de vous, pour soi-même, pense bien à ces conditions et s'y place et s'y tienne, s'y maintienne. Et prions pour que dans les églises, on mette ces conditions en bonne lumière et qu'on y insiste. Parce que la vie chrétienne conçue autrement, conçue comme une vie un peu particulière, dans laquelle une existence dans laquelle certains facteurs obtenus du monde, des constatations, certains facteurs interviennent et se mélangent avec certaines dispositions des évangiles. Ça, c'est une erreur flagrante. C'est une erreur mortelle. Je vous ai montré que le monde aujourd'hui, pire que jamais, ne peut rien nous céder. Rien. Nous céder. Je vous ai lu deux passages du Point, là, de la revue Le Point, hein. Qui donne une appréciation sur ce monde. On n'aurait peut-être pas osé en dire autant, nous, n'est-ce pas? Et ces gens qui ne sont pas des chrétiens, voir que ce monde est un marécage, comme dit Claude Imbert, un marécage. Un autre voit que les intellectuels, les sages et les intelligents, sont des gens qui ont prétendu beaucoup de choses, mais qui en réalité ont commis beaucoup d'erreurs et ont conduit le monde dans beaucoup d'horreurs. Voilà un jugement sur les intellectuels, les sages et les intelligents. Et nous voudrions, nous, que la Vierge pure, que doit être l'Église, aille chercher quelques pièces de son vêtement dans ce monde. Mais c'est horrible. C'est horrible. Je voudrais que dans toutes les églises, on crie cela, mais attention. Attention, nous ne pouvons rien emprunter au monde. Nous sommes là dans le monde pour lui apporter la démonstration de l'amour du Seigneur par notre vie, par précisément les transformations qui sont en nous et par la parole de vie. Nous sommes là pour lui apporter, pas pour prendre de lui. Voilà donc, chers amis, ce qu'il fallait que nous disions ce matin. Et cette...